Web Radio Zibline, la radio du journal Zibline.
Des expositions sur le graphe en Méditerranée et l'âge d'or du hip-hop, des interrogations sur la recherche filmée en sciences sociales, le regard de la librairie du MUCEM sur Ville Affamée de Caroline Steele, un extrait du grand entretien avec l'anthropologue Philippe Descola et le foisonnement de la première édition du festival littéraire Oh les beaux jours. Il y a tout ça dans Comme au MUCEM 27e édition, traversée mensuelle web radiophonique du MUCEM sur Web Radio Zibline. Le 12 mai s'ouvrait au MUCEM l'exposition Graphe en Méditerranée et Hip-Hop, un âge d'or au MAC, Musée d'art contemporain de la ville. Un reportage pour Comme au MUCEM de Faustine Opex.
Depuis les années 90, le MUCEM conduit un travail d'enquête sur les pratiques urbaines contemporaines. Ces réflexions amènent à mieux comprendre les rapports sociaux en milieux urbains, mais aussi la question de l'appropriation et de la conquête de l'espace public par des pratiques qui se revendiquent de la rue. En parallèle, le musée a mené un travail de collecte ayant abouti à la constitution d'une des plus importantes collections de graphes, comptant plus de 1500 objets. Cette collection est présentée à Marseille au sein de deux institutions. Au MUCEM, d'une part, avec l'exposition qui s'intitule « Graphes en Méditerranée » et au MAC, Musée d'art contemporain d'autre part, une exposition s'intitulant « Hip-hop, un âge d'or ». Lors de l'inauguration, le 12 mai 2017, Jean-Roch Bouillet, conservateur en charge de l'art contemporain au sein du MUCEM, explique cette démarche.
Alors l'idée vient du fait que le MAC avait depuis plusieurs années le projet de réaliser une exposition sur le hip-hop et qu'il se trouve qu'au MUCEM, on a une très importante collection sur le hip-hop, le graphe, les cultures urbaines, constituée par Claire Calogiroux depuis la fin des années 90 et qu'on se dit que voilà, c'était trop bête en étant dans la même ville de ne pas établir une collaboration autour de ce sujet que nous avions en commun.
Le conservateur poursuit et explique la distinction faite entre les deux expositions.
Le MAC s'est plutôt consacré à la dimension historique du mouvement, son point de départ aux États-Unis, son arrivée en Europe. Et du coup, on s'est dit qu'on allait d'une certaine manière ici au MUCEM prendre le contre-pied de cette approche en mettant plutôt en valeur la partie qui a été collectée la plus récemment.
L'exposition « Graphes en Méditerranée » située au MUCEM permet de découvrir l'œuvre de graffeurs de 5 pays – France, Italie, Espagne, Maroc et Tunisie. L'artiste espagnol Fassim est présent lors de l'inauguration.
C'est vraiment lui la légende du graphe barcelonais pour le coup et qui est un digne représentant de ce qu'on appelle la old school espagnole.
Je m'appelle German Bell, Fassim de son nom d'artiste graffiti. Dans cette exposition, il a présenté du graffiti wall style, différentes pièces, à la fois des esquisses, mais également un collage et aussi une toile qui est plus proche de son langage plastique actuel.
L'artiste français Basto est également présent.
Dans l'exposition, j'ai trois pièces qui sont présentées. Donc il y a une première pièce un peu historique qui s'appelle un nameplate. En fait, dans les années 90, tous les taggeurs portaient ça à la ceinture. C'est tout simplement en fait votre nom de tag avec une boucle en métal, avec les lettres en fer également. Donc c'est très discret quand on faisait arrêter par la police hein, à l'époque. Et j'ai également deux cartons entoilés qui mesurent donc 35 par 27 cm. Qui sont des travaux de 92, un ayant pour thématique le sida, parce qu'à l'époque c'était une grosse préoccupation, et l'autre un petit peu plus généraliste, où en fait c'est une interrogation qui s'intitule « Art, it's graffiti ».
En parallèle des œuvres, a été exposé un ensemble d'objets, des affiches, des autocollants, marqueurs, des bombes de peinture, des magazines. Ces objets du quotidien permettent de mieux appréhender le travail des artistes. Claire Calogiroux, co-commissaire de l'exposition, précise.
Les objets qui ont été rassemblés racontent à la fois leur manière de vivre, leur sociabilité, leur passion, bien sûr.
Direction l'inauguration de l'exposition au MAC, Hip-Hop, un âge d'or, où les balances d'un concert sont en cours. Thierry Ola, directeur du MAC, explique en quoi le hip-hop s'inscrit dans les changements sociétaux actuels.
Il y a quelque chose dans l'esprit des gens, on sent qu'il y a une perte, un sentiment de la perte très fort en ce moment. On passe d'une société à une autre, d'une génération à une autre, et ce sentiment de la perte, c'est dans l'air du temps, et cet air du temps, dans le hip-hop, on le sent très présent aussi, parce qu'il y a cette idée aussi que les précurseurs du mouvement hip-hop, ceux qui dans les années 70 et début 80 ont été les meneurs, ben ces gens-là, ils arrivent au terme de leur vie, en fait, c'est une histoire de génération, on est à la fin d'un cycle, et il y a cette volonté de préserver quelque chose de l'esprit d'une époque.
Cette rétrospective a pour ambition de favoriser les croisements entre toutes les disciplines qui ont été fécondées par le mouvement hip-hop, que ce soit la musique, la danse, la mode, le cinéma, les écritures, le graffiti, les tags bien sûr, mais aussi la photographie. Thierry Ola précise.
On a eu l'idée de faire cette exposition et de la construire en 5 chapitres. Deux chapitres très historiques au départ, donc on démarre avec les années 70 pendant le tout début, et puis ensuite les années 80 où on voit que le hip-hop a traversé l'Atlantique et que ça se développe aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. La suite de l'exposition, encore trois travées, la suivante est dédiée au succès, c'est-à-dire après la deuxième moitié des années 80, c'est vraiment les rappeurs, les danseurs connaissent de plus en plus le succès. Et par contre, pour les graffeurs, c'est un peu moins ça, puisque les lois sont de plus en plus sévères. Et puis, la tentative aussi de certains des graffeurs de se rapprocher du milieu de l'art avec un grand A cette fois. Après les années 87-88, ça commence à capoter parce que les meilleurs de tous ces gens qui sont portés par cette vague, ce sont ceux qui ont fait les écoles d'art et qui vont en tirer profit, c'est Kifarine, c'est Basquiat, c'est Kenny Sharp, etc. Voilà. Mais par contre, on s'est dit qu'il fallait qu'on retourne vers la rue dans la travée suivante, en reprenant le sujet des graffiteurs, en voyant leurs apports, et en particulier tout ce qui concerne les signatures en particulier. Et dans la dernière travée, c'est l'apogée du hip-hop, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un hip-hop qui est une culture qui a intégré la culture du monde global, donc une culture totalement partagée, et puis des effets économiques liés à cette culture, les produits dérivés, les publications, la diffusion.
Une partie de cette rétrospective est consacrée à l'arrivée du hip-hop en France, et plus particulièrement à Marseille. Claire Calogirou en parle.
Cette arrivée en Europe, elle se fait en fait avec les animateurs de radio, ceux qui étaient amoureux des musiques noires et qui, sur les chaînes de radio qui venaient de se libérer, faisaient un certain nombre d'émissions. Donc on avait Sydney, on avait Chabin, on avait Dynasty. Et donc on peut dire quand même que c'est eux qui, en animant les discothèques, où allaient les jeunes, alors à l'époque les jeunes des quartiers, hein, danser dans l'après-midi, ont fait arriver alors à la fois les musiques black et puis progressivement le rap.
Jean-Pierre Maéro a été le premier et longtemps unique photographe à avoir suivi le mouvement hip-hop dès les années 80.
Moi, je suis plasticien et je suis passionné de photographie et de musique. J'adorais cette mouvance américaine, le blues, la soul, le funk. Et puis, il y a eu le hip-hop. Et là, ça, pour moi, ça a été une découverte, surtout de la scène marseillaise. Il s'est passé quelque chose et j'ai suivi le mouvement. Le Mac, c'est la reconnaissance de tous ces gens qui font partie de cette famille.
Une reconnaissance institutionnelle de plus, donc au Mac, Musée d'art contemporain de la ville de Marseille, pour tous ces acteurs de la culture hip-hop, comme vient de nous le dire au micro de Faustine Opex, le photographe Jean-Pierre Maéro. L'exposition Hip-Hop Un âge d'or est à voir jusqu'au 14 janvier 2018 au Mac. Par contre, il faudra se dépêcher un peu plus pour aller voir au Mucem Graff en Méditerranée, une exposition qui se clôturera le 2 octobre prochain. C'est au Fort Saint-Jean, dans les locaux de l'Institut méditerranéen des métiers du patrimoine, que se sont déroulées deux journées d'études et de projections, les 18 et 19 mai, autour des questions liées à la recherche filmée en sciences sociales, ouverture à l'image et légitimité scientifique. Quelques échos dans Comme au Mucem de ces journées, recueillies par Chiara Forlani.
Depuis les années 90, le Mali développe l'accès à l'eau potable dans ses communes rurales. L'État malien est soutenu dans ce projet par des organismes financiers internationaux comme la KfW en Allemagne ou l'AFD en France, l'Agence française de développement.
L'Institut des métiers du patrimoine, dont le QG se trouve au Mucem, a organisé deux journées d'études au sujet de la pratique audiovisuelle appliquée aux sciences sociales, jeudi 18 et vendredi 19 mai. Ce double rendez-vous, qui a été appelé « La recherche filmée en sciences sociales », a invité plusieurs chercheurs à partager leurs pratiques audiovisuelles avec les doctorants pour les aider à légitimer scientifiquement leur expérience sur les terrains, derrière la caméra. Cette initiative est née de la volonté pédagogique de Guy Faure, directeur de l'Institut des recherches asiatiques, et de Rosemary Cano, ingénieure audiovisuelle au sein de la Maison Asie-Pacifique du CNRS.
Moi, ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs, c'est d'inviter les jeunes, les doctorants, en fait de leur transmettre tout ce que je peux pour filmer la recherche. finalement, j'ai compris leurs difficultés. C'était ça l'enjeu, en fait. C'est un manque de légitimité. Parce que filmer, pour des chercheurs, d'abord, filmer, ça ne va pas de soi pour personne. Mais pour des chercheurs, ils sont tenus dans des cadres restrictifs, mais en tout cas des cadres scientifiques très déterminés. Donc là, l'image, c'est encore un peu difficile. Heureusement, il y a des chercheurs qui s'y sont quand même bien investis. Donc l'intérêt de ces journées, c'était vraiment de demander aux chercheurs de partager leur expérience filmique dans la recherche. Il s'agit surtout de méthodes, puisqu'ils sont très rationnels. Hein. Donc là, l'objectif, on a commencé vraiment à en parler, mais c'est de trouver un équilibre entre le rationnel et l'intuitif, presque l'émotion. On va y arriver, mais en tout cas, c'est sûr que c'est d'accepter cet imprévu et puis d'accepter peut-être aussi un lâcher prise sur l'image parce que c'est peut-être moins facile pour eux de la cerner. Il y a des soucis bien sûr techniques, mais pas que techniques, hein, donc des problématiques d'anonymat, de réflexivité qui sont absolument...
Les projections, les interventions des chercheurs et les échanges avec les documentaristes, aspirants ou expérimentés, ont largement exploré les enjeux de la pratique filmique et la complémentarité entre documentaires et les postures des sciences sociales. La réflexion épistémologique a été accompagnée d'indications sur les pratiques et les techniques de l'audiovisuel. Il a fallu alors examiner le retombé du cadrage, du montage, de l'intrusion de la caméra dans un milieu humain, et aussi s'interroger sur les modalités d'entrée dans le terrain.
Alors, il y a documenté et entre guillemets documentarisé, hein, ou le document et le documentaire. Documenter, c'est enregistrer le réel façon de produire un document. Et puis il y a l'idée de documentaire qui renvoie à un positionnement différent du sujet du réalisateur construisant un regard singulier sur le monde. Donc c'est l'idée de reconstruire la recherche par l'écriture documentaire. Et donc là, il y a un terrain, j'allais dire, de confluence entre des approches de cinéma documentaire de création et le chercheur. L'expérience filmique, elle nourrit la recherche aussi. Même si ça ne transparaît pas dans le film, même s'il y a plein de choses, puisque le film, c'est que des choix multiples, elle donne une autre façon de faire de la recherche, hein, qui est extrêmement riche.
Oui, et justement, moi aussi, je viens d'une formation du documentaire, et j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir faire des réalisations pour le Togo, et j'ai pu avoir différentes relations aussi avec les gens. Il y avait un refus catégorique de la caméra. Et c'est vraiment en restant sur le camp, en dormant sur le camp et en laissant la caméra, qu'au fur et à mesure, non seulement j'étais plus acceptée de par l'expérience partagée, et en plus on se séparait de cette idée que j'avais un travail journalistique et qui était plus de reportage ou de documentaire. Maintenant, j'ai un peu cette question de comment me présenter en fait. Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos démarches quand vous vous présentez en tant que chercheur? Et des moments où vous sortez la caméra, est-ce que on dit bah oui mais il y a un intérêt tout autre là?
What is film? That's you know that. The first time which one was not recorded was the best.
La recherche filmée en sciences sociales, ouverture à l'image et légitimité scientifique, c'était les 18 et 19 mai au MUSEM Fort Saint-Jean, Institut méditerranéen des métiers du patrimoine. Tous les mois dans Como MUSEM, la librairie du MUSEM nous fait part de son coup de cœur. Pour un livre, ce mois-ci, c'est Laetitia Martel qui nous parle de Ville affamée, un essai signé Caroline Steele.
Ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler d'un livre génial que j'ai adoré et qui s'appelle Ville affamée. Il est paru aux éditions Rue de l'Échiquier il y a quasiment un an de ça. L'auteur de cet essai, Caroline Steele, est architecte de formation, enseignante, et très tôt dans son parcours, elle s'est interrogée sur le lien entre l'alimentation et l'architecture de la ville et de ses périphéries, mais également interrogée sur l'impact de la culture intensive afin de nourrir la ville sur le paysage, notamment en Angleterre, puisque c'est là qu'elle vit et que j'imagine que c'est ce qu'elle connaît le mieux. Cet ouvrage est constitué de 7 chapitres qui ne respectent pas un ordre chronologique mais thématique. C'est-à-dire qu'on suit le trajet de l'aliment, de la terre où il est cultivé, aux égouts et aux décharges où il termine sa route. On passe donc par l'approvisionnement, les marchés, supermarchés, la cuisine en tant que pièce de la maison, la cuisine en tant qu'art d'accommoder des matières premières, le traitement des déchets, et on finit sur un chapitre qui concerne les utopies de Platon aux fermes verticales. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il fait plus de 400 pages, le texte est dense, fourni, documenté, et pourtant on se régale. D'abord parce que l'auteur fait preuve de beaucoup d'humour, c'est un essai où on rit beaucoup, et c'est quand même rare finalement, les essais où on s'amuse. On sent toute son implication, son intérêt pour le sujet. Elle ne se contente pas de rester à son bureau, écrire et étudier, elle expérimente. Elle est curieuse des pratiques de ses contemporains. On voit qu'elle voyage, qu'elle va à la rencontre des gens, qu'elle leur pose des questions. Elle confronte ce qu'elle vit à ce qu'elle lit, ce qu'elle a pu lire. On ne s'ennuie jamais non plus parce que les sujets abordés sont très variés. On apprend comment l'invention du chemin de fer a changé la physionomie des villes en repoussant les animaux en dehors du centre. On apprend l'emprise des supermarchés sur les communes. Comment, par exemple, ils achètent leur emplacement en échange d'équipements sportifs. Comment, dans les années 70-80, l'essor des produits surgelés est allé de pair avec l'essor du travail des femmes. Comme il a été écrit en 2007-2008, on n'y lira pas tout ce qui s'est passé les 10 dernières années, comme la baisse de la consommation en général et la baisse de vente de viande qu'on constate notamment les mois derniers. Ce sont néanmoins des sujets qu'elle aborde. Il est question de slow food, par exemple, de tout ce qui est circuit court, de vente en vrac. En tout cas, ce sont des directions qu'elle propose comme solution. J'aimerais bien dire quelques mots aussi sur la maison d'édition rue d'Échiquier, qui est spécialisée en sciences humaines et sociales et qui fait partie de ces éditeurs qui proposent des textes de réflexion qui sont accessibles au plus grand nombre, des livres qui permettent de comprendre notre monde et d'agir dessus. Pas des livres avec des constats apocalyptiques et qui nous laissent démunis, sans piste, sans rien. Voilà. Je pense que c'est une maison d'édition à suivre.
C'est chez Gallimard, en 2005, qu'est paru le fameux essai de l'anthropologue Philippe Descola, « Par de la nature et culture », un ouvrage théorique inspiré de son expérience de vie de 3 ans chez des Indiens Jivaro de Haute-Amazonie, les Achuar, ouvrage dans lequel il proposait, selon son éditeur, une approche nouvelle pour répartir continuité et discontinuité entre l'homme et son environnement. Nouvelle approche qui est une cosmopolitique dont il nous a parlé à l'occasion de sa venue le 18 mai au MUCEM pour la conférence « Penser la nature à l'heure de l'Anthropocène », l'une des nombreuses conférences imaginées dans le prolongement de l'exposition « Vie d'ordure ». Extrait de ce grand entretien que Philippe Descola a accordé à Web Radio Zibline, grand entretien mené par Alain Père.
On est englué en quelque sorte dans l'immédiateté du présent.
Pour simplifier outrageusement, donc, il ne s'agit pas de faire des pistes cyclables et de traiter les déchets, il s'agit de traiter en profondeur les sujets politiques, et vous vous orientez vers ce que vous appelez un cosmopolitisme. Et m'a-t-il semblé, c'était un des moments de votre conférence, dans les pays d'Amérique latine, aux Andes par exemple, grâce à la présence de populations indigènes et autochtones, les luttes sont beaucoup mieux comprises. Il ne s'agit pas de faire une intervention sectorielle, il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, qu'est-ce que c'est qu'un milieu, par exemple, vous parliez longuement d'un exemple en 2006 d'un combat des populations autour d'une montagne des Andes. Voulez-vous nous rappeler ce dont il s'agissait ?
Oui, on a tendance à voir, encore à l'heure actuelle, certaines des luttes que l'on qualifie d'écologiques menées par des populations autochtones qui sont agressées dans leur milieu de vie, dans leur vie quotidienne, en particulier par des projets d'exploitation des ressources fossiles. On a tendance à voir ces luttes écologiques comme correspondant aux nôtres, c'est-à-dire comme luttant, et elles le sont en partie, c'est vrai, luttant contre la spoliation territoriale, luttant contre la pollution de l'air, des eaux et des sols, etc. Mais derrière cela aussi, il y a des formes assez différentes de conception de ce que c'est qu'un collectif. Et un collectif, c'est pas uniquement une société qui est parachutée dans un environnement qu'elle exploite et dont elle tire ça, qu'elle met en valeur, dont elle tire des richesses. Un collectif, c'est un assemblage d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes d'ailleurs assez différentes autour du monde, et qui dans les Andes constituent un ensemble dans lequel des non-humains, qui pour nous sont inertes, c'est-à-dire par exemple des montagnes, des rochers, des sources, des lacs, etc., sont conçus comme des divinités ou comme des êtres en tout cas, qui font partie de la vie sociale quotidienne, et lorsque l'on importune ces êtres lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on ne le fait pas droit à leurs besoins, à leurs désirs, etc. Ils peuvent se venger, ils peuvent provoquer des glissements de terrain, ils peuvent provoquer des avalanches, etc. etc. Et donc, les luttes de populations autochtones que j'évoquais dans les Andes, elles visent à faire droit aux droits de ces êtres que nous considérons comme des produits de l'imagination. Et c'est une façon intéressante, me semble-t-il, de concevoir ce que j'appelle la cosmopolitique, c'est-à-dire au fond une politique qui ne se borne pas à des conflits de monde entre humains, mais à des conflits de monde complets, à des conflits de monde entre eux, des mondes qui sont peuplés tant par des humains que par des non-humains. Et c'est ce que nous avons abandonné, cette forme de cosmopolitique, au moment même où Kant, dans son projet de paix perpétuelle, met en avant cette idée de cosmopolitique comme la nécessité fort légitime que tous les peuples se dotent d'institutions qui leur permettent de mener une vie civilisée. Il élimine du même coup de ces peuples toute une partie des composantes des collectifs qui, jusqu'au XVIIe siècle, ou encore au XVIIIe siècle, et en particulier dans les campagnes, constituaient des éléments fondamentaux de la vie quotidienne, qui sont de toutes sortes de non-humains. Et donc ce que j'entends par cosmopolitique, c'est précisément la nécessité de restaurer des formes de présence, d'attachement, de représentation des non-humains dans la vie politique. Et si on peut parler d'anthropocène, c'est-à-dire du fait que les humains sont devenus une force naturelle dans l'évolution du monde, il faut à l'inverse aussi dire que les non-humains doivent être pris en considération et qu'au fond, l'anthropocène... cette idée, au fond, que les humains ont tellement transformé leur environnement qu'ils sont eux-mêmes devenus une force naturelle, cette idée, il faut la coupler à la nécessité de rendre mieux présents, y compris par des formes de représentation politique, les non-humains dans la vie quotidienne. Et pour cela, il faut imaginer des solutions qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle dans l'éventail de la réflexion de la philosophie politique telle qu'on l'a héritée de la philosophie des Lumières. Et l'anthropologie a ceci d'intéressant, qu'elle offre des modèles alternatifs, non pas qu'ils soient transposables tels quels. On ne va pas fonctionner comme dans l'Empire Inca ou comme dans la Chine du XIIe siècle. Mais l'histoire et l'anthropologie nous montrent qu'il y a d'autres façons d'imaginer des rapports entre humains et des rapports entre humains et non-humains que ceux auxquels nous sommes habitués depuis, au fond, pas plus de 2 siècles et demi, 3 siècles.
Ça nous amène à évoquer la grande expérience de terrain que vous aviez en 1976-1979, où vous étiez en Haute-Amazonie, chez les Achuars.
Vous pouvez écouter l'intégralité de ce grand entretien avec Philippe Descola par Alain Père, ainsi qu'une courte vidéo en cliquant sur les liens qui s'affichent sur la page de cette émission. Dernière étape de notre traversée du Mucem en ce mois de mai 2017 avec le festival littéraire « Oh les beaux jours ». Un festival qui a bivouaqué du 25 au 28 mai dernier au Mucem avec une multitude de propositions croisant littérature, musique, sciences humaines et photographie. Un reportage de Chiara Forlani.
Jubilatoire comme une exclamation d'allégresse, la première édition du festival littéraire « Oh les beaux jours » ne pouvait pas se dispenser du cadre ravissant du Mucem pour installer les événements de son programme au plus près de la mer. À partir de jeudi 25 mai, des écrivains, des chercheurs, des photographes et des musiciens se sont succédés pour animer 8 événements éclectiques et passionnants, orchestrés par l'association des livres comme des idées. Où les beaux jours est un projet ambitieux qui sort des sentiers battus pour célébrer la littérature dans son hybridité. Nous avons demandé à Fabienne Pavia, directrice du festival avec Nadia Champez, de décrire ce festival, et elle l'a fait ainsi.
L'idée est née de Nadia Champem, une libraire marseillaise, et moi-même, qui avions envie de montrer que dans la deuxième ville de France, dont on dit souvent que le rapport à la lecture et au livre est difficile, et bien que cette deuxième ville de France pouvait faire la démonstration qu'elle était à même d'accueillir des écrivains et de faire, je dirais, dialoguer la littérature contemporaine avec plein d'autres formes d'expression artistique. Je pense à la musique, bien sûr, qui est un élément important de la programmation du festival, mais aussi à la photographie, aux sciences dures, aux sciences humaines, avec aussi l'idée que de montrer qu'il existe aujourd'hui une littérature contemporaine, c'est ce que je disais, qui est ouverte sur le monde et qui n'est pas figée et qui ne se résume pas simplement aux débats qui, même s'ils peuvent être intéressants, c'est bien de mettre un écrivain, c'est bien de l'entendre parler du dernier livre, mais on avait envie d'aller au-delà de ça et de vraiment d'essayer de renouveler les formes, je dirais, d'un festival littéraire classique.
Au MUCEM, la littérature dialogue avec les sciences humaines dans le programme Un auteur et un chercheur. En plein air, dans les jardins du Fort Saint-Jean, nous nous sommes retrouvés en compagnie du philosophe Gilles Tiberghienne et de l'écrivain Pierre Sange pour une conversation philosophique et littéraire autour du thème de la cabane. De Robinson Crusoe à William Yeats, en passant par Mark Twain, Henri Thoreau, Kafka et Arnaud Schmitt, on découvre les charmes de ces lieux d'impermanence qui nous fait retomber à l'enfance. C'était jeudi 25 mai, des cabanes rêvées aux abris contraints.
Quand j'arrivais à mon château, car c'est ainsi que je le nommais toujours depuis lors, je m'y jetais comme un homme poursuivi. Et le narrateur se compare d'ailleurs à une bête, à un lièvre ou à un renard qui vient se terrer avec effroi. Alors, la retraite de Robinson, ce n'est pas non plus une cabane au sens où je l'entendrais. Même si elle est faite de briques et de brocs, hein, comme toutes les cabanes, il y manque cette dimension particulière que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait cette dimension qui en fait non pas simplement un espace physique, mais un lieu psychique. Il y a aussi quelque chose du rapport du mobile à l'immobile, c'est-à-dire que dans cette contradiction-là, la cabane c'est quelque chose qui est bien sûr quelque part, mais qui en même temps nous emmène, nous emporte, nous fait voyager. C'est quelque chose qui nous fait décoller, le cas échéant. On en fait des fusées, mais on en fait aussi des bateaux, on en fait toutes sortes de choses quand on est dans une cabane enfant. Mais quand on est adulte aussi, quand on se met dans une cabane, au fond, on n'est plus exactement là où on croit être. On est ailleurs. Où, ça, on ne sait pas, mais on est quelque part tout en étant ailleurs.
Mais quand Stevenson, qui est cité par Nabokov, parle du plaisir qui nous reste de la lecture ou de ce livre, de ce chef-d'œuvre qui est Robinson Crusoe, il cite précisément cette image de la trace de pas en disant que ce qui fait la force de certains livres, c'est précisément ça, c'est le fait que ce ne sont pas être les grandes idées générales, les grandes digressions sur comment il peut y avoir dans Robinson Crusoe, sur la vie, la mort, Dieu, la présence, le péché, la civilisation, mais ça va être cette trace de pas. Finalement, lire un livre ou relire un livre et se souvenir frauduleusement et infidèlement d'un livre, c'est peut-être aussi instaurer une cabane à l'intérieur d'un livre, c'est faire partie de ce monde et de ne pas en faire partie.
Dès la hutte, on passe à la ville, à Marseille plus précisément, car la capitale phocéenne est plus une vedette qu'une toile de fond dans ce festival. Pour la célébrer, Oulé Boujour lui consacre le programme Regards sur Marseille. C'est une occasion parfaite pour présenter le roman photo Les Éphémères, que l'écrivain Sylvain Prudhomme, le photographe Jean-Pierre Valorani et la graphiste Odile Brôle ont réalisé avec 145 habitants. Un projet collectif inédit où Marseille est mise à l'honneur et où l'amour gagne surtout. Et aussi une belle avant-première de l'exposition que le MUCEM dédiera au roman photo à partir du 13 décembre 2017.
Je me rappelle qu'on se disait qu'en tout cas on ne voulait pas que l'image ait un rôle fonctionnel de simplement servir une action. On avait envie qu'on voit cette ville et on se demandait vraiment comment on allait traiter le texte. On en a parlé effectivement et on est arrivé à une trame dont on voulait qu'elle reste très ouverte parce qu'on voulait que ce soit les groupes eux-mêmes qui décident un peu de l'action qui se déroulerait dans le roman photo. Voilà, alors on avait cette idée que d'un personnage qui serait lui-même dans une situation d'attente, une situation de contemplation, et avec cette idée des éphémères, donc des petits insectes qui se déplacent comme ça par nuages et qui traversent les océans, qui peuvent arriver, mais on ne savait pas du tout s'il y aurait vraiment des éphémères, ou pas, c'était juste l'idée de quelque chose que la ville attend, en fait, une rumeur, quelque chose qui pourrait arriver.
À propos d'écriture, des photographies et des circulations en ville, le rendez-vous envoyé très spécial à Marseille a réuni la grande reporter du monde Florence Aubena et le photographe Pourno Boudjelal, qui depuis plusieurs mois sillonnent les rues de la ville à la recherche d'un sujet à traiter ensemble. Entre préjugés et souvenirs d'enfance, chacun relate son rapport avec cette ville, étrangère et énigmatique pour l'une, familière et attachante pour l'autre.
C'est-à-dire, c'est vrai que quand cette proposition m'est venue de travailler à Marseille, qui était une proposition de dire voilà, venez donc à Marseille, installez-vous une semaine, deux semaines, trois semaines, deux mois, et racontez-nous la ville, j'ai immédiatement dit non. Comme vous le voyez d'ailleurs. Parce que alors, pour moi, s'il y a une ville qui est absolument hermétique et incompréhensible, c'est Marseille. Le sud, c'est vraiment pas chez moi. Je n'y ai pas mes marques. Et donc, pour moi, c'est l'absolu étranger. Et c'est d'autant plus étonnant que donc je suis grand reporter depuis maintenant une vingtaine d'années. Et partir à un endroit que je ne connais pas, c'est mon métier. Mais Marseille, c'était trop loin. Trop loin, trop compliqué, donc j'ai dit non, c'est pas possible. On a un peu insisté, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même un rendez-vous manqué.
Bruno, vous, c'est un peu le contraire, parce que Marseille, vous me disiez, Marseille, ça me rappelle moi, beaucoup de choses que je connais bien. Donc vous avez plutôt un rapport beaucoup plus intime avec la ville.
Bah, un petit peu. Après, l'idée, c'est que moi, je me sens un peu nulle part chez moi. Même moi, je viens de la banlieue, en région parisienne. C'est toujours un peu compliqué. J'ai eu le sentiment, depuis quelques années, que Marseille avait quelque chose, qu'il y avait un peu quelque chose du chez-soi. J'en suis moins convaincu maintenant, ce qui est intéressant. J'ai l'impression d'être moins chez moi.
Pour finir, Olé Boujour nous a aussi fait cadeau de plusieurs belles nuits, dont une au pied du jardin des migrations, sous les étoiles, pour assister au voyage littéraire de Kenzie Jones. On nous avait promis un concert littéraire, mais le musicien nigérien, qui a inventé le genre du blue funk, nous a plutôt offert une performance sonore, politique et graphique. Tout commence quand le chanteur décide d'accompagner son dernier disque Captain Ragged d'une BD qui raconte les aventures du premier super-héros nigérien de l'histoire de la littérature.
The fantastic idea is what stimulates your imagination. The what if, the question of what if. And so when you look at the idea of something like Captain Rugged, you think, well, you know, why we have Superman, we have Spider-Man, we have the Fantastic Four, we have Silver Surfer. Where is the Nigerian superhero? I mean, there's so many superheroes in Nigeria, yeah? So we have to invent one. You have to invent your own stories. You have to invent your own narrative. And that's what we did with Captain Rugged. And luckily, I met Neil.
See now, woman, dress on for $1,000. She will. She will and she won't. See now, woman. Black dress on. Wink at a man. And he wink back now. Whoa.
Okay. All right. Nice one. Oh, you guys are great, man. I want to thank you very, very, very much. Merci beaucoup for listening. Because c'est pas un normal concert. Et c'est la première fois un peu je fais comme ça devant une grande audience. Et I'm very happy that you stayed and you listened, even though you know what I mean. So I'm very happy.
Olé Boujour, c'était du 25 au 28 mai au Mucem, un reportage de Chiara Forlani. D'autres beaux rendez-vous à signaler au Mucem dans les semaines qui viennent, c'est par exemple l'ouverture le 7 juin prochain de la grande exposition de l'été, Aventurier des mers. Il y aura aussi les 9 et 10 juin la Nuit de l'Instant, en partenariat avec les Ateliers de l'Image, une déambulation artistique autour de la photographie dans différents espaces du Fort-Saint-Jean, mais aussi dans une vingtaine de lieux des quartiers de la Joliette et du Panier. Enfin, le cycle Nature-Culture Ordure qui continue avec une conférence le 8 juin à 19h de l'architecte et designer urbain Léon Telvisian autour de la crise des déchets à Beyrouth, et le 15 juin à 19h également avec le philosophe Bernd M. Scherer, L'âge de l'homme, un défi pour la culture et la connaissance. C'était Comme au Mucem, 27e édition, merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt sur Web Radio Zibline.
Web Radio Zibline, la radio du journal Zibline.